Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. En raison d'un mouvement social, depuis plus de trois semaines, vos programmes radio sont perturbés. Aujourd'hui, journée spéciale sur France Culture pour tenter de débrouiller les ondes et tenter de comprendre ensemble le mouvement social en cours, en France et à Radio France. Dans votre grande table aujourd'hui, jusqu'à midi et demi, que reste-t-il du service public de la culture? Invité, le directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'Automne, le metteur en scène Emmanuel de Marcy-Motta. Puis, à partir de 12h55, le travail a-t-il encore un sens? Avec nous, le juriste Alain Supio, à l'occasion de la parution de sa leçon de clôture au Collège de France. Le travail n'est pas une marchandise. Bienvenue autour de votre grande table. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
En raison d'un arrêt de travail de certains personnels de l'ORTF, vous entendez en ce moment sur France Inter, Intervariété, France Culture, France Musique et FIP, un programme unique de musique enregistrée.
Une grande, grande grève juste avant sa disparition, c'était le message d'antenne de l'ORTF en 1974. Depuis bientôt un mois, vous entendez régulièrement sur nos antennes, en raison d'un mouvement social, à l'appel d'une ou plusieurs organisations syndicales, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter l'intégralité de nos programmes. Bonjour Emmanuel de Marcy-Motta.
Bonjour.
Qu'entendez-vous, vous, derrière ces mots, en raison d'un mouvement social? Comment résonne-t-il pour vous dans l'époque actuelle?
C'est un mot qui résonne sur une idée simple, qui est qu'un mouvement social, quand on entend cela, en tout cas moi quand je l'entends, j'entends que c'est un ensemble de personnes, de structures, d'individus qui se réunissent et qui se construisent autour de certaines valeurs. Et ce sont des valeurs qui sont partagées. Et c'est ce qui doit amener l'idée toujours d'un mouvement social. Et un mouvement social est une chose qu'on peut prendre en considération et qui est une chose importante. Et ces valeurs partagées, c'est souvent l'idée d'une solidarité. Et de quoi on est solidaire quand on crée justement ou quand on mobilise avec l'idée du mouvement social? Historiquement, on sait que ça a eu beaucoup d'importance, mais cette mobilisation, elle doit aussi savoir à quel endroit elle travaille quand une question qui aujourd'hui nous inquiète tous, qui est aussi l'anxiété d'une société. Et l'anxiété que l'on ressent dans la société française quand on regarde, même je dirais par rapport à d'autres pays européens, ce qui est en train de se passer dans notre pays, on doit travailler avec beaucoup de vigilance à travailler contre l'anxiété.
Donc derrière ces valeurs, vous entendez aussi l'inquiétude ou l'anxiété de perdre ces valeurs, de les voir dénaturées, qu'elles ne fassent plus nous et qu'elles ne soient plus portées haut et fort aujourd'hui.
C'est là-dessus qu'il faut être clair, très clair dans les projets, je pense, de société, et en particulier dans les services publics. C'est qu'est-ce qui fait service public, qu'est-ce que nous défendons et qu'est-ce qui est au centre. Et ce qui est au centre, c'est bien la question du public. Mais j'irai au-delà du mot du public, c'est la question de la population. C'est-à-dire qu'on travaille pour tous, que ça soit le lieu de la radio, là où vous êtes, vous aujourd'hui, où vous travaillez, que ça soit l'endroit où moi je me situe, l'endroit d'un théâtre public, que ça soit l'endroit de l'enseignant dans la défense d'une école publique. Qu'est-ce qui nous réunit depuis le milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, profondément dans cette idée aussi d'un don que nous faisons quand nous avons la volonté de travailler pour tous? Et qu'est-ce que ça veut dire travailler pour tous? Donc il y a là une responsabilité, c'est-à-dire quelque chose dont on doit répondre en permanence, on doit répondre à ces questions, et on cherche évidemment toujours à défendre le qualitatif. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui inquiète chacun, au-delà de la question immédiate là des grèves ou de la grève générale quant à la question de la réforme des retraites, pour parler très clairement des choses, où il y a une anxiété dans le devenir de chacun, des clarifications nécessaires, certainement beaucoup de choses qui n'étaient pas claires et qui produisent encore de l'anxiété. Et là, il y a une responsabilité qui est partagée par tous pour justement arriver à une clarté quand même. Je pense que c'est essentiel de ce que chacun dit et qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y ait du cynisme ni d'un côté ni de l'autre. Et il faut absolument veiller à ce que le cynisme ne l'emporte jamais, parce que sinon on n'arrivera pas à construire quelque chose de positif pour les générations futures. Au-delà des acquis que nous avons chacun ou chacune. Mais on a une responsabilité maintenant dans ce 21e siècle pour construire quelque chose pour l'avenir. Et il ne faut pas penser que la France est un pays qu'on ne peut pas réformer. Je veux dire, sinon c'est trop facile, que tout est bloqué. Alors on va arriver dans des clichés, dans des images où c'est toujours le blocage qui l'emporte, et on a l'impression que nos mentalités, notre manière de voir le monde n'arrive pas à évoluer.
Mais il y a un discours qui consiste aujourd'hui à opposer le projet, le mouvement, à l'immobilisme, jusqu'au poids de l'institution. Est-ce que cette opposition, elle est fondée ?
Non, mais le poids de l'institution, c'est une idée trop simple. L'institution est faite de personnes. Une institution, en France, elle est construite autour de valeurs qui sont portées par des personnes d'une direction à tous ceux qui travaillent à tous les niveaux à l'intérieur de chaque établissement qu'on peut appeler relié à la culture, l'éducation, la santé. Et c'est l'ensemble de ces personnes qui portent le projet d'une institution. Et c'est là où il faut redéfinir, continuer à définir, même si on ne veut pas redéfinir, mais on doit continuer à définir, à clarifier ce qu'est le projet de l'institution et à qui il s'adresse. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire un théâtre de service public aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire une radio de service public ? Qu'est-ce que ça veut dire un hôpital ? Pourquoi ? Pour tous. Pourquoi on doit être inquiet aussi des endroits de désertification et des rapports, alors là on rentre dans des données complexes, entre le rapport entre l'État et les collectivités territoriales. On sait très bien que, à un moment, quand il y a une baisse de dotation, pour dire des choses aussi là-dessus, de l'État en direction des collectivités, ou qu'il y a une redistribution qui se fait autrement, le risque aussi, c'est une dépendance dans beaucoup de territoires, de décisions qui vont être effectivement déconcentrées, mais où les régions vont toucher la culture. Où la culture sera touchée. C'est-à-dire que ça n'est pas une priorité pour beaucoup. Et là, on doit définir alors qu'est-ce que c'est que la culture ? Et qu'est-ce que ça veut dire la culture ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une discipline artistique. Il s'agit de savoir si cette idée d'égalité des chances et de l'égalité pour tous, pour toutes et pour tous, dès le plus jeune âge, est appliquée et comment nous l'appliquons. Et il faut travailler sur les territoires, les zones désertifiées, où on sait pour les hôpitaux, pour la culture, pour les théâtres, pour beaucoup d'éléments, comment on fait à l'avenir.
Alors, comment vous la définissez, vous, la culture ? Quelle est votre idée d'un service public de la culture, vous qui dirigez un grand théâtre parisien, public, et une manifestation, le Festival d'automne, qui ont des missions de service public ?
Moi, je dis, il y a trois choses. On s'adresse au public, mais je vous ai dit au départ, il y a la notion aussi de population. Il y a une question qui est essentielle aujourd'hui, c'est de savoir faire la différence entre des publics que nous connaissons, mais aussi une population, et la manière dont on peut s'engager vis-à-vis de la population. Dans le mot population, il y a le mot peuple. Dans le mot peuple, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on veut amener à chacune et à chacun. Quand on parle d'égalité des chances, c'est de qualitatif. Et c'est toute la question du qualitatif dès le plus jeune âge. Donc pour moi, quand on parle de diversité, y compris des publics, il y a trois éléments à prendre en compte. Un, tous les âges de la vie. Du plus jeune âge à l'âge le plus avancé, puisqu'il s'agit de ça. Demain, on sait que l'âge continuera à avancer, donc profitons-en. On a la possibilité de travailler sur un éventail extrêmement large. On a la chance aujourd'hui d'avoir en France, sur ce qu'on appelle le maillage d'un territoire national, un nombre d'éléments extraordinaires, de théâtres, de musées, de lieux, qui ont une activité avec des gens extrêmement engagés dans l'idée de la transmission. Parce que c'est important de rappeler dans quoi on est engagé. On n'est pas engagé dans des luttes, chacune et chacun, que pour nous-mêmes. On doit être engagé dans la question de la transmission. Et qu'est-ce que nous avons à transmettre du point de vue, justement, du service public qualitatif ? On doit transmettre, on doit pouvoir continuer à transmettre cette idée extrêmement importante, qui est que chacun doit avoir accès aux plus grands éléments possibles de la culture dès le plus jeune âge. Donc il y a la question des âges, il y a la question des classes sociales. Évidemment, depuis toujours, que tous et toutes ont le droit à découvrir des œuvres, qu'elles soient du patrimoine, qu'elles soient de la création contemporaine, que toutes ces œuvres peuvent être partagées. Il faut maintenant donner le goût et savoir donner le goût. Parce que c'est pas parce qu'on pose des œuvres dans des musées que le goût est transmis. Donc il y a toutes les questions alors qu'il faut continuer à travailler, qu'on connaît, qui s'appelle l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge, à travers des liens entre l'éducation nationale, la culture, d'autres ministères, pour travailler ensemble à un projet qui est collectif et d'intérêt général. Ça, ce sont des questions très simples. Ça a l'air d'être des mots généraux, mais il faut les appliquer. Et la problématique, c'est quand on perd confiance, quand il y a une rupture de confiance. Aujourd'hui, le risque, c'est celui-là. C'est-à-dire que on se dit, mais finalement, tout ce projet... Aujourd'hui, il n'y a qu'un projet comptable qui nous gouvernerait ou qui fait notre pensée. Donc, on n'a plus la possibilité d'avancer sur ce projet qui est commun, collectif et qui nous porte aussi et qui donne de l'espoir. Parce que si on perd l'espoir, sans être béat devant l'avenir, eh bien, on n'arrive plus à construire de manière pragmatique. Et enfin, il y a la diversité, c'est le troisième élément, des origines de chacune et de chacun. Et ces diversités constituent la France, font notre richesse. Un service public, c'est celui et c'est le lieu qui sait embrasser toutes ces questions.
Une vision comptable de la culture qui aurait pris le dessus, ça c'est aussi votre ressenti ?
Bah, si vous voulez, c'est pas seulement pour la culture. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait que depuis la crise de 2008, pour être très clair, on connaît une crise en 2008 où effectivement tous les services publics ont fait beaucoup d'efforts. Je veux dire, les efforts ne commencent pas aujourd'hui. Et c'est le risque. C'est-à-dire que ça soit, dans les secteurs dans lesquels vous travaillez, dans les secteurs culturels, quels qu'ils soient, on sait, dans la santé, etc., qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour ce qu'on appelle la rationalisation, y compris d'avoir une vision responsable, des efforts ont été faits. Énormément d'efforts, s'il faut le rappeler, ont été faits par chacune et chacun au cours de ces 15 dernières années, ou ces 10 dernières années. C'est très important. Depuis 10 ans, des efforts sont faits. On voit bien que ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, les notes de frais, tout ça a été regardé de très près, et heureusement. Il y a une forme de rationalisation nécessaire pour qu'à un moment, on se dise pas, voilà, c'est de l'argent public, on y va, c'est évident qu'il faut le dépenser. Donc, cette chasse, soi-disant, au gaspillage, a été nécessaire. Maintenant, il faut savoir dans quelle zone on rentre. Il faut que les valeurs qui nous réunissent, on puisse les retrouver. Que l'effort soit partagé, bien entendu. Je pense que tout le monde ici est responsable. Moi, je parle en mon nom propre. C'est évident que nous devons faire des efforts et continuer à en faire. Ces efforts, on les partage. Mais maintenant, on doit savoir au nom de quoi nous faisons des efforts. Et qu'est-ce qui nous réunit? Et quel est le sens que nous donnons? Pour pouvoir retrouver un projet commun, un projet de société, et qui ne soit pas qu'un projet individuel, où nous allons alors, finalement, s'enfermer chacune et chacun, à un moment, dans une situation de repli. Le risque, c'est le repli. C'est que chacun risque de se replier, et on ne verra plus quel est l'intérêt de transmission sur les générations futures.
Voilà, et Radio France, c'est aussi un plan d'économie qui inquiète, parce qu'il va y avoir des départs, et parce qu'il va falloir faire plus avec moins, et pourra-t-on encore faire mieux? Pour vous, pour les auditeurs, c'est aussi la question que se posent beaucoup de salariés de Radio France depuis ces 3 semaines et demie d'antenne perturbée que vous entendez. Voilà, croire à la singularité de notre radio publique, comme vous croyez à la singularité aussi de vos missions de service public. Je vous propose de remonter en 1965 et d'écouter la parole du général de Gaulle à l'occasion de l'ouverture de la Maison de la Culture de Bourges.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Je me félicite encore une fois d'être venu parmi vous. J'en emporterai d'abord, au point de vue général, le sentiment d'une création et l'évidence d'une innovation. Bien entendu, j'en retirerai aussi quelques conclusions pratiques sur ce qu'il y a lieu que l'État continue de faire pour la culture française en général, pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de chez nous.
Voilà. Précisons juste que le Théâtre de la Ville que vous dirigez aujourd'hui, Emmanuel de Marcimota, a été fondé, créé en 68 par oui. Jean Mercure, un peu comme une sorte de contre-pied à Jean Villard et au TNP. Axé le Théâtre de la Ville sur la multidisciplinarité. 50 ans après, donc, la fondation du Théâtre de la Ville, ces mots aussi du général de Gaulle, faut-il repenser, réinventer nos missions de service public? Est-ce qu'il faut les repenser pour vous?
En tout cas, il faut les penser. Parce qu'aujourd'hui, le mot repenser, réformer, refonder, c'est un classique. Tout comme rationaliser, plafond de verre, on a des éléments de langage, comme on dit, qui sont en train de contaminer tous les éléments même de la pensée. Et si vous me permettez de dire un mot là-dessus, je pense que la question, c'est tout simplement la pensée. Parce que repenser, ça voudrait dire qu'on pense pareil alors depuis 40 ans. Et donc, on serait dans une nécessité de créer une forme de rupture à travers le « re » et qui serait de repenser. Je crois que c'est une idée un peu simple. Je pense que ce serait plus fort quand même de penser tout simplement ou de pouvoir dire que nous devons tout simplement penser ensemble, aujourd'hui, pour le 21e siècle, les grands enjeux du service public en France et dans le cadre européen. Parce que nous sommes dans un cadre qui dépasse notre frontière. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au moment où la France, après la Seconde Guerre mondiale, quand j'entends le général de Gaulle, quand on connaît bien les discours de Malraux, où on pense et on fonde une idée du service public qui est reliée aussi au fait que le XXe siècle est traversé par 2 guerres abominables, 2 guerres mondiales. C'est le siècle où il y a le plus de morts sur la planète. Eh bien, La question du processus de paix et l'idée quand même que nous devons pouvoir vivre en paix est une idée essentielle. Je sais que ça a l'air un peu simple de dire ça aujourd'hui, mais je pense que c'est une priorité absolue. D'espérer que dans les 30 années qui viennent, nous n'ayons pas à rentrer en guerre avec d'autres nations. C'est la première fois qu'on a une période si longue de paix pour l'espace européen depuis 1945. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crimes dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des luttes dans lesquelles nous devons être engagés quant à la question de l'équité, de l'égalité, de la diversité, de tous les sujets de notre société qui nous agitent et qui sont fondamentaux. Mais nous devons avoir une pensée quant à la question, je pense, vraiment de la culture, des arts, de cette idée des nouvelles générations et de ce nouveau siècle dans lequel nous rentrons, nous qui venons du XXe siècle, où nous devons accueillir de manière positive et ouverte ceux qui sont nés au XXIe siècle. Et non pas repenser alors le monde de la culture, mais tout simplement l'inventer. En 1920, quand les surréalistes, au début du XXe siècle, se posent la question de la force et la puissance de l'imaginaire, bien sûr qu'il va falloir trouver, alors aujourd'hui, oui, l'imagination au pouvoir, et le pouvoir de notre imagination. Est-ce que nous croyons encore au pouvoir de notre imagination? Est-ce que l'imagination, qui est un mot qui semble vaste et un peu large, et peut être aussi concret, pour tout simplement s'appuyer sur des éléments et des valeurs qui nous réunissent, comme le partage, comme l'ouverture à d'autres, l'accessibilité, à travers des tarifs qui font le service public, qui fait que vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup pour avoir des soins, d'accéder à la culture, etc., etc. Eh bien, tous ces éléments-là, comment, aujourd'hui, on les pense dans notre époque? Alors, on peut dire on les repense, si vous voulez. Mais moi, je ne repense pas. Je ne repasse pas. Nous ne repassons pas les plats. Nous avons à faire ici et maintenant, comme disait Bertolt Brecht, en 2019, en 2020, dans le monde dans lequel nous vivons. Sinon, le risque, je vais vous dire, c'est que j'ai le sentiment, finalement, que nous n'arrêtons pas de défendre des instruments. Vous avez cité le théâtre de la ville, je vais vous donner deux exemples, qui sont des instruments du XXe siècle. La question, c'est comment nous inventons aujourd'hui une pensée du XXIe siècle et comment nous la repensons pas, comment nous l'inventons ensemble à partir de tout ce que nous avons su construire, nous ou ceux qui nous ont précédés évidemment, dans le XXe siècle. Comment ensemble nous arrivons à construire quelque chose ici et maintenant qui soit partageable immédiatement avec toutes les générations, avec toutes les diversités et avec toutes les classes sociales. Ça n'est quand même pas très difficile. Il suffit que chacune et chacun fasse un effort d'ouverture à l'autre, de gentillesse, qu'il y ait des valeurs en chaque être humain, qui sont des valeurs qui sont au-delà des valeurs collectives, mais qui passent aussi par des responsabilités individuelles, et nous devons, chacun en tant que citoyen, répondre à chaque moment de notre relation à l'autre. La notion d'altérité est aussi quelque chose que nous pouvons penser, et pas repenser. Tous ces éléments de langage ou tous ces mots viennent de très loin. Les combats de Antigone, pourquoi j'aime le théâtre ? C'est un combat, le combat de Hamlet, c'est un combat, ce sont des combats, justement pour des formes de justice, pour des formes où on peut défier les règles et les lois des puissants, où nous avons le droit, chacune et chacun, d'exprimer une pensée, tout en respectant la pensée de l'autre. Et peut-être la question aujourd'hui, c'est quelle est notre capacité d'accueillir la pensée de l'autre en nous-mêmes et de nous ouvrir à d'autres, y compris, je le répète, dans un espace européen où nous avons des risques pour l'avenir.
Et justement, ce combat, il se mène sur plusieurs scènes d'Europe. Aujourd'hui, vous dirigez le Théâtre de la Ville, mais vous venez par ailleurs d'être nommé à la direction de la saison France-Portugal 2021-2022. Je vous emmène là, à Rome, aux côtés de Riccardo Muti, lors d'un Nabucco de Verdi au Teatro dell'Opera di Roma. Il prenait alors la défense du budget de la culture italien menacé de coupes sombres.
Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta.
J'ai plus de 30 ans et j'ai vécu ma vie. Mais en tant qu'Italien qui a beaucoup parcouru le monde, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. Donc, j'acquiesce à votre demande de bis pour le Wappentiere à nouveau. Ce n'est pas seulement pour la joie patriotique que je ressens, mais parce que ce soir, alors que je dirigeais le chœur qui chantait « Oh mon pays beau et perdu », j'ai pensé que si nous continuons ainsi, nous allons tuer la culture sur laquelle l'histoire de l'Italie est bâtie. Auquel cas, notre patrie sera vraiment belle et perdue.
Voilà le chef d'orchestre Riccardo Muti en 2011 sous Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, les mêmes questions se répètent et les mêmes affirmations aussi en Italie. Pourquoi est-ce qu'il faut investir sur la culture pour vous, Emmanuel de Marcimotta ?
Je vais vous dire, il y a une phrase, souvent on dit aujourd'hui, on est arrivé à une époque où c'est la culture du résultat qui domine. Mais bien, il suffit d'inverser les deux mots. On peut croire tout simplement au résultat de la culture. Et croire au résultat de la culture, c'est considérer que, à travers des œuvres du passé, je citais Hamlet, je citais Antigone, des combats profonds qui sont dans des œuvres, dans des langues étrangères, ce qui fait notre patrimoine à tous. Vous connaissez Fernando Pessoa, le poète portugais, qui lui-même défend l'idée qu'en chaque être humain, il y a des identités multiples, que nous pouvons être un et plusieurs à la fois, que nous pouvons vivre dans un temps présent, mais en même temps avoir connaissance d'un temps passé et savoir nous projeter dans un temps futur. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut avoir un projet. Quand on parle d'une vision de l'avenir, pour ça, il faut être pleinement dans une conscience du présent et une connaissance du passé. Vous ne pouvez pas construire une vision de l'avenir. Les éléments pour construire une vision de l'avenir passent par les éléments de la culture, par les éléments de l'art. C'est la culture qui nous permet de travailler à une vision. Ça n'est pas l'économie. L'économie, elle est là pour répondre à des éléments et des contingences multiples et complexes, mais c'est la culture qui doit être partagée par tous. On a besoin aujourd'hui d'un ministère de la Santé qui s'intéresse aussi à la question de la culture. On a besoin que tous les ministères s'interrogent sur la place de la culture pour tous et qu'il y ait cette espèce de solidarité nécessaire, parce que demain, dans notre espace européen, avec ce qui se passe en Hongrie, avec la montée des extrémismes, avec la montée du néofascisme, avec le retour de la xénophobie, de l'antisémitisme en Pologne, et de manière si affirmée avec le Brexit en Angleterre, vous croyez vraiment qu'on va vers des espaces pacifiés? Vous croyez vraiment qu'on va trouver... Et on aura une responsabilité vis-à-vis des générations à venir, si nous ne travaillons pas très sérieusement sur toutes ces questions. Et on doit alors prendre le temps de réfléchir ensemble sur pourquoi nous faisons les choses.
Donc la culture, ce n'est pas qu'un rempart, ce sont aussi des possibles et des imaginaires.
La culture, ce n'est pas un rempart, c'est ce qui nous permet de construire un avenir.
Avec nous, le directeur du Théâtre de la Ville, le metteur en scène Emmanuel de Marcimota, avec son complice Fabrice Melchiau, il donne, 4 ans après, une suite en ce moment à Alice et autres merveilles, gros succès. La nouvelle pièce s'appelle Alice traverse le miroir, toujours d'après Lewis Carroll, à voir à l'Espace Cardin, à Paris, jusqu'au 12 janvier pour le moment. Sur une musique d'Armand Méliès. Dans votre Alice, Emmanuel de Marcimota, Zazie vient à Paris pour voir le métro, mais le métro fait grève. Voilà, comme ça on n'est pas dépaysé avec le moment. 1000 livres, c'est pas cher payé pour un peu de temps retrouvé, dit Dorothy. Et les rêves, ça coûte combien, se demande Alice. J'avais envie de vous poser la question, Emmanuel de Marcimota. Qu'est-ce que vous lui répondriez, Alice? Comme le monsieur en papier blanc, que c'est devenu hors de prix, les rêves?
Oui, c'est un peu devenu hors de prix. C'est pour ça que j'aime monter aujourd'hui Alice, c'est-à-dire cette grande œuvre de la fin du 19e siècle qui nous permet de penser sur la question du temps et de l'espace, justement. C'est-à-dire quand Alice dit que finalement ses meilleurs souvenirs, c'est ce qui s'est passé dans 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport à l'avenir et à la capacité de rêver, donc d'imaginer, et de se rappeler tout simplement que le rêve, c'est une réalité en soi. Qu'il n'y a pas le monde de l'éveil et le monde du rêve qui seraient séparés et que c'est juste un temps de repos. L'activité cérébrale pendant que nous sommes en sommeil à ondes lentes pendant le rêve est plus intense qu'au moment où nous discutons tous les deux là. Donc, il faut croire quand même que même quand on se repose, et c'est bien la question du paradoxe qui est la question essentielle, c'est-à-dire que quand on se repose, c'est là où nous avons l'activité cérébrale la plus importante, que le repos, ça ne veut pas dire ne rien faire. Que l'idée du rien faire est une idée un peu fausse, parce qu'il ne faut pas confondre le temps libre et le temps vide. Que d'avoir du temps libre, c'est important, Mais cette liberté, il faut savoir alors l'utiliser. Que la notion de liberté, c'est aussi tout un travail que chacune et chacun nous devons faire. Sinon, c'est un temps vide, qui est un temps d'attente, souvent d'un temps qui passe, et que nous, nous ne construisons pas dans ce temps dans lequel nous avons la chance d'être présents. Donc, il s'agit bien du rapport au présent, à l'instant, tout en sachant que notre présent est déjà passé, que le moment où nous sommes en train de parler appartient déjà à un passé, que ce qui compte alors dans ce que nous disons, c'est quelles d'autres capacités nous avons d'avoir déjà le souvenir de ce que nous n'avons pas encore connu. Ça a l'air complexe, mais c'est très simple. Et il s'agit peut-être d'une idée qui n'est pas romantique, mais qui est une idée claire, de se dire que nous devons construire des souvenirs et que nous ne pouvons pas vivre qu'avec la nostalgie du passé. Que notre force, c'est de construire un souvenir pour demain. Que après-demain, nous nous souviendrons de ce que nous avons construit aujourd'hui pour demain. Donc il y a un temps du maintenant, un temps du demain et un temps de l'après-demain. Et c'est dans cette perspective de ces trois temporalités que nous pouvons alors imaginer avec Alice que le rêve n'a pas de prix, mais il a le prix de l'effort. Parce que le rêve, c'est un effort.
Et cette pièce tout publique fait écho incroyablement à ce qui se passe aujourd'hui. Alice, elle traverse le miroir dans un jeu de dédoublement, de reflets que vous mettez en scène avec vos complices et votre troupe, Emmanuel de Marcimota. Elle veut être la reine du jeu aussi, votre Alice. Et c'est vrai qu'elle pose cette question du rêve, celle du temps, qui sont centrales dans cette pièce. Il y a une autre question qui est posée, et je vous la retourne une fois encore. Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux dans la vie, Emmanuel de Marcimota? Là, il y a une ébauche de réponse, la voûte céleste, la lenteur, l'équité, les autres, vous. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux?
L'autre. On doit avoir le souci d'accompagner l'autre. Parce que l'autre, c'est une part de nous-mêmes. Pour moi, profondément, mais de manière sincère, je vous réponds, c'est-à-dire la plus spontanée possible dans ma pensée. C'est-à-dire, si l'autre n'est pas une part de vous-même, alors où vivez-vous? Et avec qui vivez-vous? Schopenhauer considérait, à la fin du 19e, que l'être humain était comme un hérisson. Quand il avait froid, ce hérisson, il se rapprochait des autres, et puis malheureusement, il se piquait, et puis il se rééloignait. Donc c'est-à-dire le système pendulaire de la vie. On est dans un mouvement pendulaire. On est entre la douleur et la joie. On doit savoir chaque fois que l'on perd quelqu'un que l'on aime, à travers la mort, la maladie, que nous retrouverons une joie le lendemain, à travers la naissance, à travers une idée, ça peut être la naissance d'une pensée, à travers un autre moment de l'existence. Ce mouvement, il est systématiquement pendulaire, il n'est jamais figé. Le mouvement pendulaire, c'est ce qui fait notre rapport au temps, au présent et à la matière. Donc l'autre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.
Et c'est notre horizon commun, pouvoir se regarder dans ce miroir comme Alice et y voir l'autre. Alice traverse le miroir de Fabrice Melchiot, inspiré de Lewis Carroll, bien sûr, mise en scène par vous, Emmanuel de Marcimota, avec la troupe du Théâtre de la Ville. C'est pour l'instant à Paris, jusqu'au 12 janvier, puis en tournée dans toute la France, ce sera à partir de septembre 2020. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci.
Merci.